Rendez-vous avec vous, un temps d'antenne animé par Cathy Vanel, qui aime se balader et vous rencontrer.
Nous, on a été dans une démarche de soins palliatifs, hein, et donc on a essayé de mettre en œuvre tout ce qu'on a l'habitude de faire. Alors, c'est là où on se retrouve dans ces situations à avoir à arrêter des choses comme de l'alimentation et l'hydratation, alors que probablement, on aurait en amont réfléchi sur ce que l'on fait en trop pour la personne, on aurait probablement évité la situation telle qu'elle était. Arrêter l'alimentation et l'hydratation, voilà, c'est pas très satisfaisant. En même temps, on avait une réaction de sa femme au moment où on lui a dit, ben, finalement, l'alimentation est complètement arrêtée, mais elle a dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer? Ça a été d'une violence pour elle en disant mais vous allez la remettre, un jour peut-être, vous allez la remettre ou pas, vous voyez.
La sœur nous a quand même dit que c'était pas possible, que ça soit le seul moyen disponible, qu'il fallait que les choses évoluent sur le plan législatif.
Eh bien, nous allons voir de quelle manière les choses ont évolué depuis 2011 en matière de droit à l'euthanasie. Bonjour Jean-Pierre Christin.
Bonjour Cathy Vanel. Bonjour aux auditeurs de Radio B.
Vous êtes le délégué de l'ADMD pour le département de l'Ain. L'ADMD, c'est l'Association pour le droit de mourir dans la dignité.
Tout à fait.
Vous militez pour que chaque Française et chaque Français puisse choisir les conditions de leur propre fin de vie. Alors, revenons sur Michel Salmon, dont il est question dans l'extrait du documentaire que l'on vient d'entendre. Il était entièrement paralysé. De plus, il ne pouvait ni parler, ni s'alimenter, ni respirer tout seul. Et ça, depuis l'année 2008, date de son AVC. Dès 2008, il a demandé à mourir pour abréger son calvaire, sans que ses médecins n'acceptent d'arrêter les soins, le maintenant en vie. Après une lutte acharnée qui a duré 3 ans, il a finalement obtenu satisfaction. On a arrêté de l'alimenter et de l'hydrater. Il est mort le 22 mars 2011. Jean-Pierre Christin, il est mort de quoi, Michel Salmon ?
Eh bien, je pense qu'au terme de ce que permet la législation française, il est mort de faim et de soif. Donc, on l'a laissé mourir, on ne l'a pas fait mourir, on l'a laissé mourir, puisqu'on n'a pas le droit de faire mourir quelqu'un en France actuellement.
D'un autre côté, mourir de faim et de soif, c'est un petit peu cruel, non ?
C'est sans doute cruel, on n'est pas complètement certain de ce qui se passe lorsque quelqu'un est dans un coma profond, dans un état végétatif, et qu'il n'est plus alimenté ou hydraté. D'aucuns disent qu'il ne souffre pas, d'autres ont des doutes sur la question, on ne sait rien sur l'état psychique éventuel, le reste de conscience de la personne. Donc on peut penser que c'est cruel et que de toute façon ça ne mène à rien, puisqu'on sait que l'issue est fatale. Donc, pourquoi attendre ?
Si aujourd'hui, en 2018, Michel Salmon demandait à mourir, quelle solution lui proposerait-on ?
On n'a pas plus de solutions aujourd'hui qu'hier. La loi ne permet toujours pas, même avec l'évolution de 2016, la loi ne permet toujours pas de faire mourir ou d'aider quelqu'un à mourir. Elle permet seulement de laisser mourir.
Alors, la loi Claeys-Leonetti de février 2016 a autorisé la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Est-ce que c'est un progrès ou pas ?
Pas à proprement parler, non. Sinon qu'elle confirme le fait qu'on peut laisser mourir quelqu'un, mais ce n'est pas un progrès par rapport à une sédation une sédation normale et par rapport à ce qu'on demande nous, c'est d'interrompre la vie à la demande bien sûr antérieure de la personne lorsqu'on en est là, quoi.
D'accord. Donc, on meurt toujours de faim, de soif, et personne, finalement, n'est responsable directement de la mort de la personne.
C'est ça.
Donc, la loi Claeys-Leonetti n'est pas satisfaisante pour vous. À la DMD, vous avez donc rédigé une proposition de loi comportant 3 points. On va peut-être voir les 2 premiers points. Tout d'abord, elle concerne l'euthanasie et l'aide active à mourir.
Oui, enfin, pour être précis, l'aide active à mourir est un des points qui comporte lui-même l'euthanasie et le suicide assisté. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'une personne qui arrive en fin de vie a besoin qu'on l'aide, soit à se suicider, c'est-à-dire à prendre elle-même des produits létaux qui lui permettront de mourir dans les conditions qu'elle souhaite.
Donc ça, c'est le suicide assisté.
C'est le suicide assisté. L'autre façon, l'autre aide active à mourir, c'est l'euthanasie. C'est donc un praticien qui commet l'acte d'injecter un produit, en fait, en principe c'est une piqûre ou une perfusion, d'injecter le produit à la personne qui l'a demandé.
Oui, et donc dans l'article 2 de votre proposition de loi, vous détaillez les conditions dans lesquelles nous serions en droit de recourir à l'euthanasie.
Tout à fait. Je peux vous lire cet article qui est un peu compliqué parce que les termes sont soigneusement choisis par rapport au vécu, par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à ce qu'on veut éviter. Donc je vais vous le lire tel quel. C'est donc l'article 2 de la proposition de la DMD. On y reviendra peut-être, il y a d'autres propositions qui sont en cours, mais la proposition de la DMD, c'est donc dans son article 2, toute personne capable, selon la définition donnée par le Code civil, en phase avancée ou terminale, même en l'absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d'au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et ou à tendance invalidante et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique inapaisable qu'elle juge insupportable ou la plaçant dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité, peut demander à bénéficier dans les conditions prévues au présent titre d'une aide active à mourir. La présente disposition s'applique également dans le cas de polypathologie. Alors il est certain que cette formulation est assez indigeste, mais elle essaye d'envisager de pallier toutes les difficultés qu'on peut rencontrer pour appliquer cette loi.
Et donc l'article, il est peut-être complexe, mais il est clair. Mmh. Il tient compte des limites de chacun à supporter ce qu'il juge insupportable.
Oui, tout à fait. Pour préciser un petit peu ce qu'on veut dire, que chacun fixe ses limites, on a entendu parler du cas d'Anne-Bert récemment qui est allé mourir en Belgique.
Justement, si voilà. Vous voulez, on peut passer tout de suite l'extrait. Elle explique, quelles sont ses limites.
Bonsoir Anne-Bert, bonsoir. Merci de votre présence. La maladie de Charcot, on rappelle, est une maladie qui peut frapper n'importe qui sans qu'on ait identifié de facteurs de risque clairement associés, même si elle touche plus souvent des personnes âgées entre 40 et 60 ans. Vous avez été diagnostiquée en septembre 2015. C'est une maladie qui évolue très vite, qui n'a pas de traitement. Et vous comparez cette maladie à un emmurement ?
Oui, c'est tout à fait ça. Chaque jour, le corps se referme sur moi. Donc c'est une dépendance accrue chaque jour, c'est chaque jour des choses que l'on perd. C'est un emmurement, oui, il n'y a pas d'autre mot, c'est ça, c'est le corps se suicide.
Vous dites quand je ne pourrai plus me nourrir, faire ma toilette, je n'irai pas au-delà. C'est la limite que vous vous êtes fixée?
C'est une limite, oui. Évidemment, c'est très personnel. D'autres malades vont jusqu'au bout. Et je tiens d'ailleurs à dire que je respecte totalement ceux qui font d'autres choix. Ce n'est pas le mien. De toute façon, la mort est promise très, très vite. Et je ne vois pas pourquoi on devrait m'obliger, m'imposer à être...